Les radios du CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, vous propose un magazine consacré à l'association Joli Môme. Joli Môme, un accompagnement à la parentalité par des parents.
L'association Joli Môme a été créée en 2015 par un groupe de mères qui avait fait le constat que elle ne trouvait pas les activités qui leur convenaient.
Bruno Touvenin.
Parmi les offres qu'il y avait en soutien de la parentalité, donc dans le quartier de Jolimont, soit c'était trop cher, soit ça ne leur convenait pas à leurs besoins. Du coup, ils ont dit, dans ce cas-là, on va créer notre propre association et pour répondre à nos besoins. Donc une association entre mères à la base. L'idée, c'est de travailler sur la parentalité entre parents, c'est-à-dire de partir des besoins des parents. Et nos enfants grandissant, les besoins changent aussi en fonction des publics. Il y a quand même beaucoup d'associations qui font du soutien à la parentalité sur Toulouse. Du coup, on n'a pas besoin de refaire ce que font les autres. Donc c'est vraiment adapté aux besoins de nous comme parents. Comment on peut ensemble faire mieux que tout seul et compenser un gros problème de la parentalité urbaine, en tout cas aujourd'hui, qui est la solitude. C'est sortir de cette solitude, la solitude des mamans à la base qui sont un peu assignées à la maison et avec des enfants qui grandissent et leur mari qui travaille. Et puis après, aussi la relation entre les parents, comment mieux communiquer entre nous, entre parents. Et notre objectif, c'est d'arriver à une coparentalité, en tout cas une équipe parentale qui fonctionne bien. C'est de l'auto-accompagnement, vu que ça se fait entre nous. Il n'y a pas d'experts dans l'association. C'est plutôt la somme des expertises qui fait monter le niveau. Les besoins, à la base, n'étaient pas énormes, vu qu'il s'agissait de faire des activités entre parents, donc déjà des sorties, des choses comme ça. Puis, en se rapprochant de la caisse d'allocation familiale et du réseau, le REAP, qui est le réseau d'écoute et d'appui à la parentalité, il a été obtenu un financement qui permettait, dans ce cas-là, d'aider à faire des voyages ou des sorties. Alors les locaux, il n'y a pas eu de problème, parce que le centre social de Jolimont prêtait ses locaux. Une des particularités de l'association, c'est de ne pas avoir à louer un local, et il y a des lieux pour ça qui existent, donc il n'y a pas de besoin. Donc l'argent servait surtout à financer ou de la documentation, acheter des jeux, des choses comme ça, et petit à petit à faire venir des intervenantes comme une psychomotricienne qui animait des ateliers. Une des particularités de l'association, c'était des parents qui ne pouvaient pas se payer les prestations qui étaient proposées par le marché, de pouvoir les faire à un coût très réduit, quoi. Au départ, c'était que des parents bénévoles qui se répartissaient le travail et la gestion. Et puis, chemin faisant, il y a eu un appel à projet sur les 1000 premiers jours et la question de la périnatalité, c'est-à-dire de l'accueil des parents de très jeunes enfants, qui a mobilisé une partie de l'équipe. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait faire appel à plus de prestataires et nous aussi à nous former, à devenir plus professionnels, on peut dire, sur le sujet. Donc ça a modifié quand même le fonctionnement de l'association du fait que les financements donnent des moyens et que il faut les dépenser.
Je suis sophrologue et thérapeute.
Cécile Clavery.
J'ai rejoint l'association initialement parce que je suis maman de deux enfants que j'élève toute seule. Donc c'est le côté entraide et collaboration de l'association qui m'a amenée à rejoindre l'équipe. J'interviens aussi bénévolement dans l'association, notamment dans les groupes de parole de coparentalité et de groupes de parole de mère. Sur mes ateliers, j'utilise un peu de sophrologie, mais ce n'est pas l'essentiel de la pratique dans les ateliers. On est complètement concerné par les problématiques sur lesquelles on travaille et qu'on propose aux autres parents de venir déposer. Donc, de savoir de quoi on parle, de l'avoir vécu ou d'être en train de le vivre, c'est quelque chose qui aide à construire une proposition parlante et pertinente pour les parents qu'on rencontre.
À la base, moi, j'étais papa de trois enfants et grand-père aussi. Voilà, donc c'est quand même l'entrée. Et après, je me suis formé en sociologie, en particulier sur la question du genre et des politiques sociales, pour développer le côté père, justement, la place des pères dans l'association et dans la parentalité en général. Donc j'ai été appelé par les fondatrices, en tout cas, à me dire « alors, et les papas, vous faites quoi ?» Et bienvenue. Donc je me suis un peu spécialisé là-dessus. Et donc je suis devenu salarié du fait qu'il y avait des moyens aussi pour ça, pour être plus présent, plus actif, en tout cas sur le développement des activités. Ouais.
Notre objectif principal, c'est de répondre aux demandes des parents. Donc on a certaines choses qui sont déjà en place. Mais après, l'idée, c'est de partir des demandes et des besoins des structures ou des parents directement pour construire nos propositions. Donc on a quelques propositions types, on va dire, qui sont déjà construites. Mais il n'y aura jamais deux cycles qui vont être identiques. Donc sur les ateliers mères, le principe, c'est d'être des cycles sur plusieurs ateliers, on va dire entre 4 et 8 ateliers, où les mères se retrouvent. La proposition, c'est de réfléchir ensemble qui je suis en tant que femme, qui je suis en tant que maman, qu'est-ce que je veux pour mon enfant, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour aller dans telle direction. Mais à aucun moment j'interviens là-dedans en tant qu'experte de la maternité. C'est plutôt fournir du contenu de réflexion, de remise en question à ces mères qui viennent finalement réfléchir ensemble et se poser ensemble sur leur intériorité de femme et de maman. Sur la maternité, il y a beaucoup de questionnements sur est-ce que je suis capable de faire ça. Il y a aussi beaucoup de doutes face au jugement des autres, que ce soit les amis, la famille. Il y a aussi énormément de pression sociale sur une espèce d'idéalisation de la mère. C'est valable aussi pour les pères, mais en tout cas, il y a cette pression sociale et cette pression que chaque personne finalement finit par se mettre elle-même d'être un parent idéal et cette culpabilisation de ne pas y arriver parce qu'on ne peut jamais arriver à un objectif qui n'existe pas. Finalement, c'est se rassurer dans son rôle de maman ou de parent de manière générale. Ce qui est très difficile pour nous, c'est souvent plus facile d'exprimer les émotions et ce qu'on ressent. Et paradoxalement, ce qui est souvent beaucoup plus difficile, c'est de savoir ce dont on a besoin ou ce dont on a envie. Et ça, c'est un travail de confiance dans un groupe et un besoin de cadre et de sécurité dans la séance et dans le cycle pour être en mesure d'aller chercher à l'intérieur de soi suffisamment profondément pour aller à la rencontre de nos propres besoins.
Je m'appelle Anna, j'ai 36 ans. Je travaille en tant qu'hôtesse d'accueil à mi-temps pour m'occuper aussi de mon fils. Et donc, du coup, on est paxé et on a un petit garçon de 2 ans et demi. On a emménagé donc à Saint-Aurens l'été dernier. Et donc ici, j'ai trouvé l'espace pour tous à Saint-Aurens. Propose beaucoup d'activités en famille, voilà. Et puis notamment un jour, donc, Julia de l'Espace pour tous nous parle de cet atelier avec l'association Jolie Mom, atelier coparentalité, voilà, sur 4 sessions, sur des samedis matins. Donc voilà, moi j'ai été fortement intéressée, et puis du coup j'en ai parlé avec mon conjoint, et puis il m'a dit oui, ça peut être bien. Donc cet atelier, on l'a fait donc sur 4 sessions, et je crois même qu'ils avaient rajouté une date. Je trouve qu'être parent, c'est difficile. On est souvent en train de s'auto-juger, et puis de se dire, par exemple, bon, nous, un des gros problèmes, entre guillemets, avec notre fils, c'est qu'il ne dort pas bien la nuit. En fait, il dort, mais il se réveille quand même plusieurs fois. Et donc, par exemple, ce problème-là, entre guillemets, n'est finalement pas vraiment un problème quand on en parle avec plein d'autres parents, parce qu'on se rend compte que, ah oui, en fait, c'est le lot de beaucoup de parents. Et donc, moi, je cherche des lieux aussi où de pouvoir échanger avec d'autres parents, de pouvoir parler de nos expériences respectives, de nos problématiques, voilà. Puis là, d'avoir un atelier où on est encadré, où il y a des exercices, etc., aussi avec l'autre parent, ben, je trouvais ça super intéressant, parce que du coup, c'est des temps qu'on prend pas forcément dans le quotidien. Et du coup, là, c'était vraiment un temps où ben, déjà, on était ensemble, où c'était quelque chose qu'on faisait ensemble. Et puis voilà, donc vraiment dans le thème des parents.
Il y avait une de mes amies à l'époque, c'était avant le Covid, elle m'avait parlé de ce groupe de paroles de pères.
Adrien Blanchet, président de l'association Jolie Mom.
Et le Covid est arrivé, et donc j'avais relancé Bruno à cette époque, que je ne connaissais pas. C'est cette amie qui m'avait donné les coordonnées de Bruno. J'ai dit, ce serait bien qu'on relance l'idée. Je lui avais écrit un peu avant le Covid, et puis le Covid est arrivé. On était tous, chacun isolé avec nos difficultés, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de relancer pour qu'on puisse le faire pendant le confinement. On l'a fait par visio. Et là, il y avait Bruno et moi qui participions, et puis rapidement, il y a des gens qui sont venus d'un peu partout en France. Il y a des gens de Nantes, de Chambéry, de Paris. Et quand le confinement s'est fini, on a continué à le faire par Zoom parce que c'est finalement pratique. Moi, une semaine sur deux, j'ai mes enfants. Le groupe de parole, il est à 21h tous les mercredis. Donc, c'était vraiment que des pères. Bon, il y a cette entraide entre hommes là, qui nous plaisait beaucoup. Et dès qu'on mettait des femmes, on avait toujours un peu peur qu'il y ait un peu de la séduction ou un peu la peur d'être jugé. Donc c'est la non-mixité, c'est quand même quelque chose qui a été longuement débattu chez les féministes. Et là, on voulait se retrouver vraiment entre hommes. Pendant peut-être un an, on s'est retrouvés entre hommes. Et là, depuis 6 mois ou un an, quand les hommes se retrouvent, il y a Cécile qui s'est créé un groupe de parole de mère, où les mères se retrouvent en visio d'un autre côté, les pères de l'autre, et une semaine sur deux, on se retrouve tous ensemble. Ça apporte quelque chose à la non-mixité, parce qu'on vient chacun apporter notre sensibilité, mais c'est quand même important, on tient à le garder, ce groupe de parole et d'écoute, que de pères.
Pour les pères, il y a un gros travail sur l'expression des sentiments, l'expression des besoins déjà, d'apprendre à parler. Quoi apprendre ? Tout le monde sait parler, mais c'est parler de soi, c'est parler de l'intime. Donc c'est créer un cadre de sécurité qui permet ça et qui est très particulier pour les hommes. On ne travaille pas de la même façon côté masculin que côté féminin pour poser en tout cas cet endroit-là. Et ça, c'est la base parce qu'après, une fois qu'on a la confiance, on est tous des humains qui avons des choses à raconter et à partager. Mais c'est poser ce cadre qui est particulier, effectivement. La construction de la masculinité, alors là, c'est le sociologue qui parle, nous amène à nous méfier, à ne pas montrer notre vulnérabilité pour ne pas donner des éléments à l'autre, qui est forcément un ennemi, de nous attaquer. Donc on est forcément dans la réserve par rapport à la vulnérabilité, sauf auprès de sa mère ou de sa compagne, qui en général remplace la mère sur ce plan-là. Donc face à un homme, on va pas donner des informations qui pourraient nous mettre en difficulté. Donc ça prend du temps. Et alors c'est long. C'est 8 séances. Tout l'important, c'est comment on va poser ce cadre. C'est la première séance pour que ça commence à dire « Ah oui, je suis un endroit en sécurité, je peux m'exprimer ». Et après, il y a un ingrédient majeur qui est de parler de sa relation à son père. Ça, c'est sûr que ça parle, ça marche à tous les coups. Et après, quand est-ce que je suis devenu père ? Et là, on a vraiment un gros écart entre les hommes et les femmes. Cet instant où on est rentré dans la parentalité, est vraiment, pour les très peu d'hommes, c'est avant la naissance, voire dans l'enfance, alors là, c'est extrêmement rare. Pour pas mal, c'est au moment de la grossesse et de l'accouchement. Puis pour certains, c'est après, c'est même plus tard qu'ils vont devenir parents. Voilà, des questionnements qui n'ont pas du tout les mêmes réponses. Et l'idée, c'est de ne pas avoir de jugement, parce que pour certains, ça peut être des prises de conscience terribles, de se dire « Ah ouais, mais... Ah oui, en fait, je ne pensais pas du tout à être père, alors que l'enfant était là. » Donc ça fait des fois des prises de conscience un peu douloureuses. Déjà être conscient que « Ah oui, je suis responsable d'un autre être humain. » Et la question de la responsabilité, pour les hommes aussi, ne se travaille pas du tout de la même façon. Les garçons, en général, sont beaucoup plus entourés, soutenus, que les filles sont moins autonomes sur le plan de la responsabilité. Ce qui paraît étonnant, vu que les hommes dominent le monde, mais ils le font entre hommes, ils le font pas forcément en relation avec les autres habitants de la planète.
Je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans, je suis marié et papa d'un enfant, d'un garçon, donc il y a bientôt 3 ans. Je suis sans emploi, bon, c'est lié à des problèmes de santé notamment.
J'aimerais savoir, dans un premier temps, comment vous avez connu l'association Joli Môme ?
Si je remonte un peu dans le temps, ça a commencé quand ma femme, au début, qu'elle a accouché, on voyait des sages-femmes et ensuite on allait à la PMI pour le suivi de notre enfant. Et en fait, après avoir été plusieurs fois à la PMI, en consultation, il y avait une pédiatre et une personne aussi qui posait des questions sur comment ça se passait. Elle mesurait l'enfant, elle posait des questions sur son alimentation, des choses comme ça. Donc elle vérifiait juste que tout allait bien. Et cette dame nous a parlé de cette sorte de lieu d'accueil par enfant. Comme c'était pas très loin de chez nous, voilà, un jour on y allait. Elle a peut-être senti qu'on était un peu isolés, ma femme et moi, à nous occuper de notre bébé. Voilà. J'ai remarqué qu'il n'y avait que des femmes. Autant bénévoles que des personnes qui venaient avec leurs enfants. Et bon, moi, ne travaillant pas et étant curieux aussi, bon, j'étais venu. Et du coup, j'ai rapidement demandé « Ah, est-ce que des fois, il y a des papas qui viennent ?» Et on m'a dit qu'une fois par mois, il y avait une réunion entre les papas, une sorte de temps de parole, mais qui pouvait être avec des jeux... on joue un jeu simple comme domino ou jeu de cartes et en même temps on parle de la parentalité. Et en fait c'était animé par Bruno Touvenin. Je ne savais pas trop ce qu'impliquait d'avoir un enfant. Bon, de base j'étais déjà isolé, mais du coup avec un enfant...
Vous étiez deux isolés ?
Deux isolés.
Trois ?
Oui, trois isolés. Mais bon, pas isolé complètement, mais c'est vrai que par exemple la première année avec un enfant... Quand on ne travaille pas et qu'on est les deux parents à la maison, c'est spécial.
Je trouve que c'est difficile d'allier la vie familiale, sa vie personnelle, sa vie de couple et le travail, quoi. Et de mêler tout ça, alors que moi, là, j'ai repris le travail il y a quelques mois et je suis qu'à mi-temps. Et pourtant, je trouve que le rythme est vachement soutenu. J'ai l'impression que j'ai le temps de rien, que les journées défilent. Moi, je sais que voilà, avoir un enfant, j'ai vraiment envie de passer du temps avec lui. J'ai envie de profiter, de le voir grandir. Voilà, mon fils, il a commencé la crèche à ses 9 mois. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. J'avais besoin d'un petit relais. Voilà. Et ça a été très crescendo, très doucement, à notre rythme, en fait. Ça m'angoisse un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui disent oh, « Profite tant qu'il a 2 ans !» Parce que ça passe très, très vite. Et ça, c'est vrai que des fois, ça me fait un peu peur aussi. Et c'est ça aussi... dans l'échange avec les autres parents qui ont des enfants plus grands, ou etc., ou qui en ont plusieurs, qui peuvent aussi nous dire ce genre de choses et se dire « Ok, il dort pas bien la nuit, ok, on est très fatigué. » Et moi, ce qui me donne de l'énergie, des fois, c'est de me dire « Ben, faut profiter, quoi. » Et après, je vois, il a déjà 2 ans et demi, et quand je vois tout ce qu'il sait faire, etc., je me dis oh, « oui, ça passe vraiment très vite, quoi. »
Dans les ateliers coparentalité, l'idée, c'est que les parents viennent ensemble, qu'ils soient encore en couple ou plus en couple, mais qu'ils viennent en tant que coéquipiers dans l'intérêt de l'enfant. Donc c'est des parents qui parfois sont dans un état de conflit avancé, et tout notre travail avec Bruno dans ces ateliers, ça va être de tout ramener systématiquement à l'enfant, à ses besoins, à ses intérêts.
Ce qui est étonnant, c'est que les groupes coparentalité, dans ces groupes-là, les hommes ne fonctionnent pas du tout de la même façon que quand on est en non-mixité. C'est vrai que moi, je ne vois pas trop de côté genré et de stéréotype. Quand les hommes parlent entre eux, ben, on est au même niveau de sensibilité, de responsabilité, de tout ça. Quand on a dépassé, je dirais, le stade de la confiance, quand on est là, ils sont vraiment complètement investis en tant que parents. Par contre, dès qu'on va se retrouver en mixité, là, réapparaissent les stéréotypes et les positions, parce que là se met en place le couple conjugal, le rapport homme-femme et plus le rapport de parent. Et c'est ça qui est très compliqué dans la coparentalité, c'est de bien distinguer ces deux aspects-là.
C'est vrai que j'y suis allé pas mal de fois, c'était en présentiel. On va dire une fois sur deux, j'étais le seul papa. Mais bon, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'à chaque fois, on abordait les choses de manière un peu différente. Des fois, il amenait une activité à faire. Je ne sais plus au bout de combien de fois, mais j'ai participé à plusieurs visios pour parler de la parentalité. Une semaine sur deux, c'est que les pères. Et une semaine sur deux, c'est les pères et les mères mélangés. Au début, on parle un peu de sa météo personnelle. Dire chacun tour de rôle comment on va, se sentant libre de dire ce qu'on veut en fait, ce qu'on a envie de partager et ce qu'on n'a pas envie on ne le partage pas. Et ensuite, dès qu'on a fait un premier tour, on fait un deuxième tour où on parle de la météo parentale. Donc là, on parle de voilà, comment ça va avec notre enfant, nos enfants. On peut aussi parler du coparent. Voilà, des fois, il y a des pères ou mères célibataires. Voilà, j'ai participé à plusieurs visios, une fois par mois environ. Et c'est vrai que j'ai plutôt fait les visios mixtes. Voilà. Ce n'était pas forcément un choix, mais c'est plutôt que ça... Voilà, des fois, quand il faut coucher le petit le soir ou qu'on est fatigué, on n'a pas forcément l'énergie.
Il y a d'autres formats, il y a des ateliers parents-enfants. Il n'y a rien de régulier, c'est plus selon nos besoins, nos envies, les demandes qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, le week-end dernier, il y avait un atelier cuisine parents-enfants. Il y a un cuisinier qui est venu et l'idée, c'était de cuisiner en binôme parents-enfants. Il est arrivé avec plein de produits de saison qu'il nous a présentés et avec ses recettes et de travailler ensemble et ensuite de déguster tout ça ensemble. Il y a eu parfois des ateliers théâtre parents-enfants, ça peut être de la sophrologie parents-enfants, il peut y avoir plein de choses différentes.
On croise les gens en général dans la vie, bonjour, vous allez bien? Oui, bon, et petit à petit, des fois, on va se raconter des petites anecdotes qui vont faire que. Mais là, on rencontre vraiment les gens intimement. Et en fait, comme on est dans un espace sécurisé où le cadre est bien posé, et, voilà, on sait qu'en fait, on est tous là pour une raison. En fait, on passe tous des phases difficiles, pas forcément pour les mêmes raisons et tout ça. Mais du coup, on vient là quand même pour se mettre un petit peu à nu. Et c'est un petit peu la magie du truc aussi. C'est que déjà, on est en petit groupe, 3 couples. Et il y en avait une aussi qui venait toute seule, mais qui n'a pas fini toutes les séances. En fait, il y a un côté naturel. Même s'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de vouloir se livrer ou raconter un peu des choses de leur vie familiale, intime, voilà. et bien en fait ça se fait. La parole se libère et du coup il y a un côté affectueux qui se crée, alors que c'est peut-être des gens avec qui dans la vie tous les jours on n'aurait pas forcément eu envie de créer un lien ou voilà. Mais voilà, le fait de vivre cette aventure ensemble, c'est vrai que ça crée quelque chose de plus profond.
Alors, à chaque fin de séance, on demande aux gens de s'engager ou de faire un premier pas. Tiens, pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu voudrais essayer? Et du coup, la fois d'après, on regarde. Alors, des fois, c'est le fiasco total. J'ai essayé ça et ça ne marche pas du tout. Sachant que, de toute façon, changer ses modes de communication, parce que c'est souvent des façons de communiquer qui ne sont pas efficientes, ça prend du temps parce qu'on a des habitudes et des émotions aussi. C'est un travail global quand même qui ne va pas se faire en deux séances simplement. On donne des ingrédients. Et on parle des freins. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois suivante, justement, on parle de pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'y arrive pas, alors que j'ai la méthode, on fait des jeux de rôle, tout va bien, mais à la maison, j'y arrive pas. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler la fois d'après. Ça prend du temps, et ça prend aussi de s'y prendre tôt. C'est sûr que ce n'est pas avec des ados qu'il faut commencer à rattraper les erreurs. Quoi, en termes de communication, là, il est un peu tard. Donc, ça vaut le coup dès la toute petite enfance. Et c'est pour ça que l'idée de ce programme des 1000 premiers jours, c'était de mettre l'accent sur cet investissement parental au tout début. Et en particulier, alors, pour les pères, c'est vraiment fondamental parce que passer de 1 heure par semaine à 2 heures, c'est déjà doublé. Et pour un enfant, le double, c'est énorme dans sa petite vie qu'il a. Donc, insister là-dessus, c'est vraiment important pour l'enfant. Oui.
Dans les bénéfices immédiats, on va dire, ce qui peut ressortir régulièrement, c'est l'apaisement. Ce qui est enrichissant aussi, ça va être une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de ce qui peut se passer aussi à l'intérieur de l'autre parent. Et cette meilleure compréhension va forcément avoir des impacts dans la communication et dans l'entente.
L'intérêt du partenariat avec les centres sociaux, c'est que nous, on peut amener un certain niveau et on est, nous, sur l'expression des besoins, des vulnérabilités, tout ça. Après, la réponse, elle peut justement venir de la structure. Et c'est ça, je vois qu'avec le centre social de Saint-Orens, par exemple, ce qui se passe dans le groupe va permettre à des parents d'être orientés, dire, tiens, il se passe ceci à la PMI ou pour la crèche, on peut envisager des choses. Donc, voilà, moi, je crois que c'est déjà un rôle important de faire émerger ces besoins.
Ce que ça m'apporte, moi, personnellement, c'est que je vois différentes façons de réagir et toujours le côté de se dire « Ah, bon, c'est pas que à moi que ça arrive. Ah oui, il y a cette façon de gérer aussi. » Peut-être moi, j'ai un tempérament à parfois culpabiliser ou à être inquiet, avoir des doutes, même si j'imagine que beaucoup de parents ont des doutes, des fois, sur leur façon d'éduquer leurs enfants. Des fois, ça fait soit déculpabiliser, soit se dire « Ah, on n'est pas tout seul. » Qu'il y ait différentes personnes, différents styles de manière de penser, de ressentir les choses. Je trouve que c'est enrichissant de les partager, et sachant que pour les hommes, les papas, c'est peut-être moins facile que pour les mamans qui, des fois, se livrent plus facilement, même dans la vie de tous les jours.
La participation financière, en fait, elle ne correspond pas au coût de l'atelier. Ce n'est pas du tout là-dessus qu'on se base, mais plutôt que sur un engagement. Il y a un tarif de base, en général, 5 euros la séance. Et on peut donner plus aussi. Pour certains, ils disent « Ah ben non, ce n'est pas assez », et soutenir l'association. Donc, sur notre site, quand on s'inscrit, on a le choix, je dirais, en termes de tarifs. Il y a des tarifs plus solidaires, on va dire. Mais on maintient l'atelier, même s'il n'y a pas la masse critique, je dirais, au niveau finance. L'important, c'est que ça se fasse, que ça soit régulier, que les gens sachent que ça existe.
Ça dépend vraiment des ateliers. Il y a certains ateliers où on ne demande rien du tout. Pour les visios du mercredi soir, par exemple, on va demander 5 euros, je crois, ou 10 euros d'adhésion annuelle, mais c'est tout. On les anime vraiment bénévolement. Pareil pour les sorties. Quand on propose des sorties, là, il n'y a aucune participation demandée aux parents.
Aujourd'hui, retrouver le public après le Covid, c'est lent. Les gens sont un peu dispersés. Donc, faut pas baisser les bras. Quitte à faire avec des fois des petits effectifs. Alors, c'est moins intéressant pour ceux qui viennent parce que c'est moins interactif, mais quand même maintenir. Et on sait que les gens viennent aussi par cooptation. C'est ceux qui viennent qui vont appeler ceux qui... Nous, on peut faire toute la pub qu'on veut sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout ça qui fonctionne. C'est plutôt les gens qui vont faire l'expérience, qui vont en parler autour d'eux. L'expérience 1000 premiers jours nous a permis d'aller sur le périurbain, là où sont les parents aussi beaucoup, les jeunes parents en particulier. dans les villes limitrophes de Toulouse. Et là, de rencontrer des publics plus jeunes parents, je dirais, avec des bébés. Donc ça élargit, je dirais, le champ. Et aussi, on s'est rendu compte de nouvelles demandes. Bon, la question du conflit, ça s'est devenu vraiment très important. Je crois que le Covid n'a pas aidé sur l'ambiance entre parents. Donc une très grosse demande sur la communication entre parents. Et puis, pour les pères, prendre soin d'un enfant, d'un bébé, des questions vraiment très pratiques. Donc l'idée, c'était de monter des ateliers puériculture pour pères. Il y a eu de la demande là-dessus. Donc on a fait intervenir une infirmière puéricultrice. Voilà, donc des choses vraiment auxquelles on n'aurait pas pensé auparavant, quoi.
On a ce problème à mobiliser les gens, à motiver les gens. Pourtant, toutes ces activités, c'est passionnant. C'est un moment hyper important pour moi dans ma semaine. C'est chaque semaine, le mercredi, je me pose et je parle avec d'autres hommes, d'autres adultes de ce que je ressens, ce que je vis. Et je trouve ça désespérant qu'il n'y ait pas beaucoup plus de monde.
Ben, apparemment, ils vont reprendre l'année prochaine aussi des ateliers. Donc nous, on est déjà à l'affût. Mais ce que je leur ai dit, c'est qu'on aimerait bien que cet atelier soit tout le long de l'année. Nous, on aimerait que ce soit comme quand on va, par exemple, à l'atelier peinture toutes les semaines, voilà, en activité extrascolaire. Moi, j'aimerais qu'on puisse avoir ça. Et je sais que toutes les semaines, on va avoir notre rendez-vous parents avec d'autres parents. Je trouve ça génial.
Le collectif des radios libres d'Occitanie vous a présenté l'association Joli Môme. Avec la participation de Bruno Touvenin, Cécile Claverie, Adrien Blanchet, Anna et Nicolas. Pour en savoir plus sur Joli Môme, vous pouvez visiter leur site jolimome.com. En petites lettres, tout attaché et sans accent. JOLIMOMES.com. Pour joindre l'association, par mail jolimome@gmail.com, jolimome@gmail.com ou par téléphone au 06 17 03 12 64. 06 17 03 12 64.